Comment allez-vous, dites?
Très bien,
Très
merci beaucoup.
bien, Dieu soit loué, merci beaucoup. Écoutez, je sais que vous êtes juriste à la fondation du vénérable Jérôme Lejeune, c'est bon de le préciser. J'aimerais que vous nous disiez un peu plus pour nos auditeurs qui ne connaissent pas tant cette fondation qui fait beaucoup pourtant dans le domaine de la bioéthique, du respect de la sacralité due à la personne humaine.
Oui, tout à fait. Alors, la Fondation Jérôme Lejeune a été créée après la mort du professeur Lejeune, un tout petit peu après 1994, pour poursuivre la mission et l'œuvre de Jérôme Lejeune. Je rappelle que Jérôme Lejeune est celui qui a découvert la cause de la trisomie 21 en 1958. Donc, c'est lui qui a vu que pour la première fois que la trisomie 21 n'était pas due à une tare de la maman, enfin à une faute de la maman, par exemple, ou n'était pas une maladie contagieuse, mais était simplement due à un aléa génétique qui faisait qu'il y avait un troisième chromosome sur la paire du chromosome 21. Et donc il a été reconnu mondialement, c'est devenu le père de la génétique moderne, comme on l'appelait. Et puis, il est devenu aussi l'avocat de la vie parce que, il a bien vu que sa découverte allait être utilisée non pas pour chercher à soigner et guérir ses patients, ses petits patients comme il les appelait, mais à les diagnostiquer dans le ventre de la mère pour les avorter. Voilà, puisque c'était au moment de 1900, un peu après 1958, sa découverte a commencé à poindre l'idée qu'on pouvait avorter de l'enfant in utero.
Ça a dû être un
Et donc,
déchirement
il...
terrible, en tout cas pour lui, hein. Ça
Exactement.
se retournait contre lui, c'est une vraie croix, je pense.
Voilà, ça a été le drame de toute sa vie après sa découverte. Et donc, il ne s'est pas laissé abattre et il a continué à chercher un traitement pour soigner ses petits patients, à suivre ses petits patients pour les encourager et puis pour être là pour leur famille et pour leur apporter les soins nécessaires, et puis à prendre la parole pour les défendre et pour défendre leur dignité, y compris in utero, dans le ventre de leur mère. Et donc Jérôme Lejeune a été déclaré vénérable, comme vous l'avez dit, par l'Église catholique le 21 janvier de cette année, le 21 janvier 2021. C'est-à-dire l'Église catholique a considéré, a attesté que Jérôme Lejeune avait vécu de manière héroïque les vertus théologales et cardinales. Ça n'est pas rien, évidemment. Et donc la Fondation Jérôme Lejeune suit son exemple et poursuit son œuvre et sa mission. Et elle a trois missions, la mission de chercher, la mission de soigner et la mission de défendre. La mission de chercher, cela signifie qu'elle cherche un traitement pour améliorer ou guérir les personnes atteintes d'une maladie génétique de l'intelligence, comme les personnes trisomiques. Elle finance de ce fait plus de. Elle a financé et elle finance encore des projets de recherche. Elle a financé 750 projets de recherche qui sont uniquement financés par les fonds privés. Elle a cette mission de soigner à travers son institut Jérôme Lejeune, qui est le premier centre européen pour les maladies génétiques de l'intelligence. Et elle suit, cet institut Jérôme Lejeune suit 10 000 patients. Et enfin, elle a cette mission, la Fondation Jérôme Lejeune, de défendre, cette troisième mission de défense de la dignité des personnes trisomiques 21 pour faire respecter leur vie, mais aussi faire respecter la vie du commencement naturel à sa fin naturelle.
Et vous, c'est ça, Lucie Paqueri, c'est ça qui vous a attiré, c'est cet axe profond là dans la Fondation Jérôme Lejeune qui vous avez décidé de mettre vos forces au service de ce respect absolu de la personne humaine.
Voilà exactement. Moi, je travaille en effet dans la mission de défense, dans la mission de défendre la vie, la dignité des personnes trisomiques 21 et de la vie de manière générale. Et c'est en tant que juriste, en effet, que j'ai rejoint la Fondation, en tant qu'avocate, parce que juridiquement, en plus, toutes ces problématiques de respect de la vie ont une teneur particulière, puisqu'il y a énormément de contradictions dans notre droit français, qui tantôt protège l'embryon humain, tantôt le considère comme une chose. Et donc, j'ai voulu, en tant que juriste, apporter mon concours à la Fondation pour éclairer, chercher, travailler sur toutes sur notre droit français et sur toutes les propositions de loi aussi qui sont déposées à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ou les projets de loi qui menacent le respect de la vie humaine.
Oui, pour préciser les choses, tous les glissements sémantiques ou tous les mensonges qui s'habillent, c'est ça, tout ce qui s'infiltre au fond dans le droit, les incohérences, vous vouliez mettre ça à la lumière au fond.
Voilà, exactement. Savoir en tout cas rappeler que l'embryon humain, par exemple, n'est pas un point de vue, n'est pas une approche. On ne dit pas ce qu'on veut de l'embryon humain. L'embryon humain, c'est d'abord un constat scientifique, c'est une réalité. L'embryon humain résulte de la fusion des gamètes, de l'ovule et du spermatozoïde et s'incarne dans un processus de vie cellulaire organisé, continu, ininterrompu, jusqu'à la mort de la personne. Donc en fait, de sa conception à sa mort, il c'est un être humain. Voilà. Et donc, quelles que soient les positions idéologiques qu'on peut avoir, le droit est censé coller à la réalité, et en l'occurrence à la réalité scientifique. Et dès lors que l'embryon humain est un être humain, il doit être protégé par notre droit français. C'est d'ailleurs ce que notre droit comporte. Notre droit comporte quelques principes de protection, des principes qui sont forts, qu'on appelle des principes d'ordre public, c'est-à-dire qu'ils ont une signification, une importance particulière, une portée particulière. Et je pense notamment à l'article 16.4 du Code civil qui insiste bien sur le fait que la loi doit garantir le respect de la vie de l'être humain dès le commencement de sa vie, justement.
Ben là, c'est une découverte, en tout cas pour moi et certainement pour bien des auditeurs. Vous dites que c'est des lois d'ordre public, c'est ça, et que c'est reconnu au niveau j'imagine, au niveau du bon sens dans la loi, c'est inscrit. Mais en tout cas, c'est érodé, c'est attaqué, c'est
Exactement.
de toutes
Oui.
parts, quoi. Hein. Là, vous vous situez, vous, à la genèse de ce qui vit. En fait, c'est bien que l'univers a commencé dans une masse vraiment minime, très très minime, et on voit l'univers dans lequel nous vivons maintenant. Et donc vous situez à la Genèse, et c'est un lieu de l'intime par excellence. Donc vous devez mener des combats pas croyables, excusez-moi de dire ça.
Bah, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de textes qui passent à l'Assemblée nationale ou au Sénat et qui nécessitent un travail d'argumentaire de bon sens, hein, parce que justement, il y a beaucoup d'attaques par rapport à ce principe que je viens de rappeler, par rapport à la protection de l'être humain. Et donc, il y a une nécessité, il y a un vrai travail à faire pour rappeler le bon sens, la réalité des choses et contrer toutes ces attaques de l'espèce humaine, en fait, puisqu'il s'agit de ça. Il s'agit de protéger notre espèce humaine. L'embryon humain fait partie de notre espèce humaine. Il est être humain au même titre que les autres, que ceux qui sont nés. Et donc, si on n'est plus capable de protéger l'embryon humain, alors on n'est plus capable de protéger qui que ce soit. Et on le voit bien d'ailleurs, toutes les personnes vulnérables aujourd'hui sont attaquées. Les personnes trisomiques, tantôt sont mises à la lumière par rapport à l'accueil du handicap, par rapport au respect de la différence, mais en même temps, en médecine prénatale, la trisomie 21 et les fœtus porteurs de trisomie 21 sont éradiqués. Plus de
Oui.
96% des fœtus diagnostiqués trisomie 21 sont avortés. Donc ça montre bien qu'on est dans un paradoxe profond, presque une schizophrénie en fait dans notre société, qui fait qu'il faut vraiment lutter contre la
Oui,
stigmatisation.
l'immédiateté, oui, l'immédiat, c'est de l'opportunisme,
Voilà.
quoi. C'est.
Et le rejet du plus faible, de la différence, voilà, qui en fait est en germe, enfin, est vraiment ancré et s'enracine dans notre société. Et ce qui n'est pas, enfin, on est censé être le pays des droits de l'homme, et même le pays de la bioéthique, entre guillemets, puisqu'on est le premier pays qui s'est doté d'une législation bioéthique. Et donc, on est un peu montré en exemple dans le monde entier parce que la France a des valeurs bioéthiques propres, mais en réalité, on est tout le temps en train de valider des transgressions bioéthique, des transgressions, des atteintes à la personne humaine, à l'être humain, à l'embryon humain,
Vous voulez dire
satisfaire
que
des intérêts personnels.
Là, vous voyez pas de... La France ne s'illustre pas à ce niveau-là, disons. Elle est dans l'esprit du monde, avec tout ce que ça peut avoir.
Alors,
de...
Exactement. Mmh. En réalité, c'est trompeur, cette présentation positive de la France que soulignent nos gouvernants, hein, d'ailleurs, ils s'en servent, est trompeuse, puisque, et la loi bioéthique 2021 qui a été votée cet été, qui a été publiée au journal officiel cet été, après 2 ans de débat, l'illustre très bien, malheureusement. C'est qu'on voit bien que la loi de bioéthique, en réalité, aujourd'hui, l'évolution des lois de bioéthique ne font que valider des transgressions, ce qui est des transgressions, parce que j'allais dire des progrès scientifiques, ce qui est présenté comme des progrès scientifiques, mais qui en réalité, ces progrès scientifiques ne font plus du tout attention et ne portent plus de respect de l'être humain, de la personne humaine. On le voit bien dans la loi de bioéthique qui a été votée cet été. Il y a beaucoup de dispositions qui ont été votées et qui n'ont pas du tout été médiatisées sur la recherche sur l'embryon humain et qui poursuivent ces dispositions, qui poursuivent une transgression permanente sur l'être humain, le réduisant à un objet de laboratoire, à un cobaye, pour toujours plus tester, je pense par exemple tester les embryons chimériques, voilà, voir qu'est-ce qui se passe quand on mélange des cellules de l'embryon humain aux embryons animaux. Est-ce qu'on pourra faire grossir ou pas un organe humain dans un animal? Eh bien, pour tester cela, eh bien, on utilise l'embryon humain. Voilà. Pour tester le transgénique qui est autorisé dans la loi de bioéthique depuis cet été, eh bien, on va utiliser l'embryon humain pour lui retirer un gène ou lui en intégrer un autre pour voir si on peut contourner des maladies génétiques ou si on peut augmenter les capacités de l'embryon humain. Et tout ça, ce sont des recherches qui sont toutes nouvelles et on va utiliser l'embryon humain pour tester ces recherches. Donc sans aucune conscience, sans plus aucune conscience de ce qu'est l'embryon humain, on teste sur lui, on expérimente sur lui les recherches les plus folles.
Oui, au mépris, comme vous le disiez, de la réalité, et que la science démontre bien, de la réalité de l'embryon humain, c'est-à-dire sa réalité, c'est-à-dire sa singularité.
Oui,
au mépris de tout ça, oui. Vous assistez donc à l'hubris, comme disaient les Grecs, c'est-à-dire cette démesure, au fond, cette idolâtrie de la science qui peut que s'effondrer, oui.
J'ai d'ailleurs qualifié la loi bioéthique de 2021 de loi scientiste. On voit bien en fait que ce qui prime, c'est la science, c'est la découverte à tout prix de nouvelles choses. Donc en soi, que la science progresse, c'est une bonne chose, au contraire. Enfin, nous, la Fondation Jérôme Lejeune est une fondation scientifique et médicale, donc elle promeut la science, elle promeut les recherches scientifiques. Mais si c'est fait en contradiction et sans considérer l'être humain, eh bien, ça pose problème. Voilà. À quel prix? Est-ce que la fin justifie les moyens? Non. En tout cas, sûrement pas quand il s'agit de sacrifier un être humain.
Oui, ce sont sans les évidences, c'est la science, sans les évidences et sans l'émerveillement.
Oui, exactement. Il n'y a plus aucun émerveillement, ça c'est tout à fait juste. Il n'y a plus aucun émerveillement sur l'embryon humain, sur ce qu'est l'embryon humain. En tout cas, en termes de recherche scientifique, plus du tout. Alors, on veut toujours plus connaître quand même. On veut faire de l'embryologie, donc on veut connaître le développement embryonnaire pour savoir comment ça se passe exactement, comment le processus cellulaire se met en place, comment les cellules se différencient. Mais le problème, c'est que ça passe par le fait de détruire un embryon humain.
Mais quelles ténèbres, ils n'ont jamais eu d'enfants, c'est incroyable, quelles ténèbres quand même.
En tout cas, et juridiquement, on le voit, il y a une fracture qui s'opère entre l'avant-naissance et l'après-naissance. Et c'est un des travers de notre droit français, c'est que le droit français n'octroie la personnalité juridique, donc n'a de reconnaissance juridique, qu'à partir du moment où l'enfant naît vivant et viable. Alors, il y a quelques exceptions, c'est en ça que c'est intéressant, c'est que le droit français reconnaît quand même que l'embryon humain qui perd son père, donc l'embryon en gestation qui perd son père, son père meurt pour X raisons, eh bien pourra quand même hériter à sa naissance de son père. Donc on lui reconnaît une personnalité juridique rétroactivement. Mais aussi dans d'autres situations, l'embryon humain peut être très protégé. Je pense notamment à un domaine transgressif de la bioéthique qui est la procréation médicalement assistée, dans laquelle une des techniques qui s'appelle la fécondation in vitro permet de créer un embryon en laboratoire, de fusionner en laboratoire un ovule et un spermatozoïde, qui donnera un embryon, et si cet embryon humain est doté encore d'un projet parental, eh bien, il sera conservé dans les cuves des SECOS, dans les cuves des centres d'assistance médicale à la procréation, et il sera évidemment très protégé pour éviter que le couple perde ses embryons. Donc, on assiste à des contradictions permanentes, en fait, en droit, qui montrent bien que en fait, depuis 1975, depuis qu'on a autorisé l'avortement et qu'on a accepté collectivement que l'embryon soit supprimé du ventre de sa mère si celle-ci ne le souhaitait pas, ne souhaitait pas cet enfant, eh bien, en fait, l'embryon humain, il est dans un espèce de flou juridique et même de flou dans la pensée des gens, où tantôt on ne le veut pas, tantôt on le veut, mais alors on le chosifie parce qu'on le conserve dans des congélateurs pour faire une procréation médicalement assistée un petit peu plus tard. Tantôt, on l'utilise en matériaux de recherche. Et donc, on voit bien qu'on ne sait plus... Voilà, on n'a plus de conscience de ce qu'est l'être humain. Et on perd la notion de l'être humain.
En tout cas, vous, Lucie Pacher, et vous notez le départ, vous le dites, vous êtes certainement plus au fait que moi, je n'avais pas remarqué ça, mais vous dites que c'est du moment où l'avortement a été légalisé, qu'il y a eu cette hébétude, cette sorte de stupéfaction, cette paralysie dans le droit, enfin, où on ne sait plus que dire, comment agir, comment statuer sur le statut de l'embryon, que faire ou que ne pas faire, c'est comment c'est là pour vous ?
C'est sûr qu'il y a eu un avant et un après, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'avortement a été légalisé en France, l'embryon humain, on ne pouvait plus dire que l'embryon humain avait une dignité propre puisqu'on acceptait, qu'il soit supprimé. Donc, à partir du moment où l'avortement a été légalisé, l'embryon humain n'était plus protégé pour ce qu'il était. Il était devenu, on ne le percevait qu'à travers la femme, en l'occurrence. Et ça a été le basculement, en effet. Puisqu'aujourd'hui, par exemple, dans les recherches scientifiques, on ne le considère qu'à travers les yeux du chercheur qui en a besoin. Et donc, on ne le considère pas doté d'une protection particulière. Ou on le voit à travers le couple qui fait une procréation médicalement assistée et qui a encore un projet parental sur l'embryon. Donc, il est, entre guillemets, protégé dans le sens où on va y faire attention pour ne pas qu'il soit détruit. Ou encore, si le couple qui ne veut plus qui fait une procréation médicalement assistée, n'a plus de projet parental sur les autres embryons qui lui restent, eh bien, on va les détruire ou les donner à la recherche. Et donc, il n'y aura plus de perception de dignité pour eux. Donc, en fait, on ne perçoit l'embryon humain qu'à travers, non plus pour ce qu'il est, mais à travers la projection qu'on a sur lui. Voilà. Et ça date de 1975.
Merci beaucoup, Lucie Pacheri, de ces éclairages et de votre combat, qui certainement doit être âpre et rugueux, parce que là, réellement, l'esprit du monde s'infiltre à tout va et de partout. Mais merci pour votre combat. Nous invitons vraiment nos auditeurs et auditrices aussi à intercéder, à prier, parce que là, le secours viendra d'en haut. Merci encore une fois. Nous sommes ravis de votre témoignage.
Merci.